Bonjour et merci d'écouter le grand face-à-face de France Inter. Vos rendez-vous jusqu'à 13h la semaine des humoristes, le duel Natacha Polony, Gilles Finkelstein. Et puisque nous sommes à deux jours seulement, deux tout petits jours avant le début du bac, une pensée amicale et fraternelle pour tous les candidats qui sont convoqués lundi matin à 8h tapante pour l'épreuve de philosophie. Et pendant que les terminales peaufinent leurs révisions et rêvent de quitter le lycée, la guerre des programmes scolaires est déclarée. Elle fait rage autour de la philo, mais aussi en histoire géo, en français, en maths ou en SVT. On discute, on échange et c'est souvent vif, particulièrement animé. Et loin d'être fini, puisque l'ensemble des programmes de terminale doivent être revus à l'occasion de la grande réforme du lycée. Derrière ces batailles des questions passionnantes, que faut-il enseigner? Qui doit en décider? Quels programmes et quelles disciplines doivent avoir la priorité? France Inter ouvre le débat avec celle qui est au cœur de ces questions, la présidente du Conseil supérieur des programmes, Souad Ayada, sera notre invitée dans une vingtaine de minutes.
France Inter, le grand face-à-face. Ali Badou.
Le grand face-à-face avec Natacha Polony et Gilles Finkelstein. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Bien.
Pas comme un candidat du bac à deux jours de l'épreuve de philo?
Non, exactement. Assez différemment.
Ouais. Est-ce que vous étiez des angoissés avant de passer le bac?
Très angoissé parce que élève médiocre.
Et vous, Natacha?
Et peu travailleur.
Très angoissé.
Très angoissé.
Ah, mais pour chaque forme d'examen, de test, même quand on me dit on va faire un quiz, je commence à avoir de la tachycardie.
Mais travailleuse.
Bah, du coup, pour compenser, on essaye. Mais...
Travailleur sur le tard.
Vous avez changé, ouais. C'est assez impressionnant. Mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Avant votre duel, la semaine des humoristes de France Inter, mise en onde par François Audouin. Et la semaine a démarré avec le lundi de Pentecôte, jour férié travaillé pour aider les personnes âgées. Guillaume Meurice en a profité pour demander aux Français ce qu'ils en pensaient.
Les Français, ils veulent pas travailler. Maintenant, attention, il y a trop d'étrangers.
Ah oui, bah, quel est le rapport là?
Ils prennent la place des Français parce qu'eux, ils travaillent.
Ah bah donc c'est bien alors qu'il y a les étrangers pour travailler là?
Ah non! Puisque le Français ne veut plus travailler, monsieur, pas besoin de faire venir les étrangers. Ben comme ça, le Français verra ce que c'est quand il sera bien dans la merde.
Ah, putain de Dieu! J'avais pas pensé à ça. Voilà. Pour que le Français reprenne le goût du travail, on vire les étrangers et là, on se rendrait compte. Comment on fait techniquement pour virer les étrangers?
Ceux qui sont à la porte de la chapelle, faudrait un coup de laser.
Un coup de quoi?
De feu. Pour les foutre dehors.
Un coup de laser. Ah oui,
allez y vivre là-bas.
Ah, est-ce que c'est pas un peu violent ce que vous dites?
Non, c'est pas violent.
Non, mais je pensais, c'est pour ça que je pose la question. Enfin, j'ai bien fait de demander, parce que foutre le feu aux étrangers ou les virer à coup de laser, ça paraissait violent comme ça, clairement. Je rappelle aussi que cette journée de travail est destinée à aider les personnes âgées. Alors, quand on en entend certaines, on se demande si c'est une bonne chose. Et je
Une semaine aussi que la Coupe du Monde féminine de football a commencé. Un engouement général, des audiences records à la télé pour les matchs de l'équipe de France. Les explications de Pablo Mira.
Vendredi, écoutez, je mets le match contre la Corée, là, le match contre la Corée. Je tombe sur quoi? Une phase d'attaque des Françaises. Et là, je me marre. C'était tellement lent, on aurait dit un ralenti. Hein. Bon, il s'avère que c'était vraiment un ralenti. Mais bon, quand même. Mais si encore il y avait que ce problème de vitesse. Mais non. Hein. Elles taclent jamais. Elles frappent moins fort. Elles ne sont jamais accusées de viol. Ça, c'est pas le foot que j'aime. Quant au niveau des gardiennes, alors là, ma louloute, le niveau des gardiennes. Pardon, mais certaines frappes, même Vincent Lambert pourrait les arrêter. Et après, les féminazis réclament un salaire égal entre les hommes et les femmes dans le foot. Alors là, ça, c'est costolastico, c'est fort de café, comme on dit dans le métier. Et c'est normal que les femmes soient payées 40 fois moins que les hommes, puisqu'elles génèrent moins de revenus publicitaires et puis de billetterie. Mais dès l'instant où elles rapporteront autant, alors là, oui, d'accord, là, ça me paraît normal qu'à ce moment-là, les joueuses de l'équipe de France gagnent 25% de moins que les hommes, comme une femme normale, quoi.
Dans l'actualité aussi, la grève aux urgences qui s'est durcie cette semaine avec le renfort de nouveaux grévistes. Charline Vanhoenacker a recueilli le témoignage d'un brancard.
Quand Agnès Buzyn dit « Je ne veux plus qu'il y ait des gens sur des brancards, non mais oh, elle veut pas me supprimer mon poste à moi aussi ?»
Combien d'années de fabrication pour un brancard ? 9. Si j'avais su, j'aurais fait des études de l'Igigogne. C'est moins d'investissement. Évidemment, c'est devenu plus dur de trouver un lit dans un hôpital public que dans un hôtel à Cannes pendant le festival. Pourtant, les urgences font tout pour optimiser la place. La semaine dernière, j'ai vu deux brancardiers finir par caler un patient à la verticale entre la machine à café et le distributeur de sandwichs de la salle d'accueil. De toute façon, on s'en fout, elles sont cassées depuis 2 mois, les machines. Non, je vois des choses incroyables. Rien qu'avant-hier, j'ai vu un médecin prendre la tension d'un patient avec sa main gauche parce que de sa main droite, il faisait une piqûre à une autre patiente. Et en plus, il rédigeait une ordonnance avec un stylo qu'il avait calé entre ses dents. S'il se met en intermittent du spectacle, il a des chances d'arrondir ses fins de mois. Ce qui est vraiment bizarre, c'est qu'aujourd'hui, quand j'entends quelqu'un qui dit « Allez, accrochez-vous, vous pouvez le faire, il faut garder espoir !» La plupart du temps, c'est un patient qui s'adresse aux soignants. Tout fonctionne à l'envers. Du coup, avec mes collègues brancards, on a un jeu. On essaye de deviner qui sont les malades et qui sont les soignants.
Avec la grève, pas facile pour les malades de se faire soigner. Heureusement, Daniel Morin a trouvé une solution.
En ce moment, se blesser, être malade, c'est prendre des risques. Vous le savez, les urgences sont au plus mal. Heureusement, vous pouvez compter sur l'élan français de soutien aux urgentistes en partenariat avec Bricorama. Si par malchance, tu t'es coupé un membre, sache que tous les matins, on t'attend rayon agrafeuse, rivets, vis et boulons de chez Bricorama. Chez Bricorama, on a même pensé à ceux qui se coupent une main et qui ne la retrouvent plus. On cautérise le poignet au chalumeau, à un coup de super glue et au choix, une mini-pelle, une brosse ou pour ceux qui ont gardé une âme d'enfant, un crochet pour ressembler à l'ami de Peter Pan. Oh, c'est beau, c'est bon quand il y a une mobilisation générale comme ça. Sachez-le, il y a des docteurs qui sommeillent en nous.
C'est vrai, c'était la semaine des humoristes de France Inter. À suivre dans le grand face-à-face, le duel Polony-Finkelstein.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
En cette troisième année aux responsabilités, nous voulons donc faire évoluer notre manière de gouverner. Nous sommes et nous demeurerons des réformateurs. Mais nous devons davantage associer les Français à la fabrique de nos décisions.
L'acte 2 du quinquennat a commencé mercredi. Le Premier ministre présentait devant l'Assemblée nationale le calendrier des réformes, la méthode pour les mois à venir jusqu'aux élections municipales en mars 2020. Édouard Philippe a obtenu la confiance des députés, pas très surprenant, 363 voix contre 163. Il y a 6 mois, on pensait que c'était terminé, que le quinquennat était arrivé à son terme, avant terme. Ça recommence, la politique c'est assez surprenant finalement, Gilles.
Oui, c'est ce qui en fait le, c'est ce qui en fait le charme et c'est ce en quoi, d'ailleurs, je pense que ce discours marque moins l'ouverture d'un acte 2 parce que il y a beaucoup de continuité et sur le fond et sur la méthode entre le début et la situation actuelle que la fin d'une parenthèse, ou en tout cas c'est comme ça que le gouvernement l'espère, la fin d'une parenthèse ouverte avec le mouvement des Gilets jaunes qui a été marqué par logiquement une forme d'immobilisme. Et donc quand le prémisse dit « nous sommes des réformateurs », c'est reprendre le chemin de la réforme. C'était ça,
je crois. Il ne s'est rien passé, on reprend les choses où on les avait laissées.
En tout cas, c'est on reprend le chemin de la réforme. On le fait peut-être avec un peu plus de prudence parce que il y a quand même peu de réformes de structure qui ont été avancées et sur un certain nombre d'éléments.
Mais il y a des sujets explosifs ou en tout cas potentiellement inflammables. On parlera dans quelques minutes de la PMA, par exemple.
Oui, ou des retraites, mais même sur les retraites, le Premier ministre a annoncé que tout ça se ferait de manière très progressive.
Natacha ?
Oui, mais la question à se poser, c'est en effet celle du discours médiatique sur ce discours, dans la mesure où c'est exactement cela, c'est-à-dire le moyen de refermer une parenthèse, comme si ce qui a été une révolte importante dans l'histoire politique française n'avait pas existé. C'est-à-dire, on nous vend un acte 2 qui est en fait la reprise exacte de mesures qui étaient des mesures qui étaient prévues. Tout cela était déjà dans les tuyaux. Alors, on verdit un petit peu plus, on nous parle recyclage du verre, etc. Mais à part ça, c'est exactement la continuité. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'exécutif n'a non seulement pas pris conscience de ce qui s'est passé depuis quelques mois, mais cherche à toute force à faire comme si il ne s'était rien passé.
Ou alors ils ont gagné le bras de fer, c'est une autre explication.
Mais sauf que ce n'est pas dans ces termes que ça doit se prendre. Et d'ailleurs, cela signifie que tous les discours qu'ils nous ont tenus pendant la crise des Gilets jaunes, nous devons prendre conscience, plus rien ne sera comme avant, c'était du pipeau. Bon, on s'en doutait un petit peu, mais de fait, là, ce discours-là nous prouve qu'il n'y a encore une fois, aucune prise de conscience réelle du fait que ce n'était pas un bras de fer, c'est la manifestation d'un mouvement de fond qui remonte vraiment du cœur du pays et qui doit être réfléchi comme quelque chose qui a trait à l'organisation économique et sociale, non seulement du pays, mais de l'ensemble de l'Union européenne.
Gilles ?
Mais je suis surpris de la surprise de Natacha.
Non, c'est pas de la surprise, c'est de la consternation.
Non, ce discours ne pouvait pas être un tournant. Les principales mesures avaient déjà été annoncées par le président de la République pendant le mouvement des Gilets jaunes, puis à la sortie du grand débat. Ce que pouvait être, seulement, mais c'est déjà important, cette déclaration de politique générale, c'est apporter un certain nombre de précisions sur quelques arbitrages et sur des éléments de calendrier. Par ailleurs, il est très rare quand même qu'une déclaration de politique générale d'un Premier ministre constitue un événement. C'est très rare sur la première déclaration de politique générale, si on se remet 50 ans en arrière, qu'est-ce qu'on a retenu ? Peut-être Chaban dans les années 70, peut-être Rocard dans les années 80.
Et l'ennui mortel apparemment de celle d'Edouard Balladur qui a duré deux heures.
Oh là là, oui.
Et apparemment,
et qu'est-ce qu'on a retenu davantage encore comme deuxième déclaration de politique générale, puisque là, il s'agissait de la deuxième déclaration de politique générale. C'est encore plus rare et ça n'arrive que lorsque c'est un nouveau Premier ministre. Donc, tout ça est assez normal.
D'accord, mais il y a des choses qui ne sont pas si évidentes.
Alors, il y a des choses qui ne sont pas si évidentes et surtout, il y a des choses qui ne sont pas encore déterminées. Et notamment sur des réformes qui sont pour moi les réformes les plus importantes, qui sont les réformes sociales. Il y a deux réformes absolument majeures avec la réforme des retraites d'un côté et la réforme de ce que Emmanuel Macron a appelé le revenu universel d'activité, qui est une allocation sociale unique. Le principe de ces réformes peut être approuvé, les modalités restent extrêmement opaques, extrêmement incertaines pour l'instant, et elles peuvent faire basculer du bon ou du mauvais côté ces réformes.
Natacha ?
Oui, enfin, je ne manifestais pas de la surprise, et c'est pour ça que j'ai commencé par parler de ce qui était intéressant, à savoir le discours médiatique.
Mais moi, c'est-à-dire
que nous-mêmes, nous commencions en disant « mais quelle remontée ?» est déjà une interprétation de ce qui se passe assez particulière, dans la mesure où la question à se poser n'est pas de savoir s'il y a une remontée dans le sens où...
J'ai pas parlé de remontée.
Dans le sens où Édouard Philippe et Emmanuel Macron auraient emporté la mise dans un jeu. La question est de savoir si, politiquement, ce qu'ils proposent correspond à l'état du pays. Alors ensuite, on se doute bien qu'ils ne vont pas changer leur vision du monde parce qu'il y a eu, en effet, un mouvement. Enfin, c'eût été pas mal. Mais hélas, on se doute que ce ne sera pas le cas.
363 voix contre 163. La majorité qui a fait confiance au Premier ministre est encore plus importante que par le passé. Et elle dépasse maintenant le cadre d'En Marche.
Oui, dans le sens où, là aussi, ça nous raconte une histoire politicienne. Ça nous raconte le fait qu'il y a des municipales et que les LR qui ont tenu compte de la gamelle absolument monumentale de leur parti aux européennes se disent qu'il est temps de faire allégeance. Là, on est dans la cuisine politicienne.
Au Sénat, c'est pas exactement la même histoire. Et pour le coup, là où la droite a encore la main, encore le pouvoir, les sénateurs se sont majoritairement abstenus.
Non mais c'est tout simplement parce que là, on est encore dans la cuisine politicienne. On a un bras de fer entre Gérard Larcher, qui se vit comme le dernier représentant d'un bastion des Républicains face à la République en marche. Je pense que ça, c'est de la cuisine. C'est de la cuisine, ce sont des ambitions. Là où Gilles a raison, c'est que ce qui est intéressant, c'est de voir ce que vont donner ces réformes sociales, quelle est leur logique exacte. Et ce qui va être intéressant, puisque nous allons en parler, c'est d'observer la contradiction entre ces réformes, cette vision et les discours que peut tenir Emmanuel Macron sur le capitalisme.
Gilles.
Oui, il ne s'est pas rien passé du côté du gouvernement et du président pendant le grand débat. Les mesures qui ont été annoncées sont quand même une prise en compte. On peut considérer qu'elle n'est pas suffisante, mais il s'est quand même passé quelque chose et 17 milliards d'euros, ce n'est pas totalement rien. En revanche, cette opération est une opération parlementaire, une opération politique. D'un point de vue parlementaire, il y a relativement peu de surprises. C'est-à-dire que la majorité reste stable. Il y a peu d'évolution entre la première et la seconde déclaration de politique générale. L'opposition les oppositions se renforcent, mais sont faibles et elles sont ce qu'elles sont. Le problème d'Emmanuel Macron aujourd'hui n'est ni un problème politique, ni un problème parlementaire. Il y a un problème sociologique qui est de renouer, de retisser le lien avec les milieux populaires qui se sont beaucoup éloignés. Les dernières élections l'ont encore montré. Et le problème, par ailleurs, est un problème financier, qui est un problème pour le coup nouveau. La situation économique s'améliore sur beaucoup d'indicateurs, mais les déficits publics, et notamment le déficit des retraites, le déficit de la sécurité sociale et les comptes publics en général, se dégrade.
Et parmi les nombreuses réformes annoncées par le Premier ministre cette semaine à l'Assemblée, il y en a une particulièrement qui a suscité le débat.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Je veux que le principe de non-marchandisation du corps des femmes, qui fait partie de l'identité de la France, nous ne vendons ni le sang, ni les organes, soit inscrit dans la loi.
Valérie Pécresse, la présidente ex Les Républicains de la région Île-de-France, c'était sur France Inter jeudi matin et elle répondait à ce que le candidat Emmanuel Macron avait promis et qui est donc confirmé, l'ouverture de la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes sera donc bien à l'agenda des réformes à venir. Présentation du projet de loi au Conseil des ministres en juillet, inscription à l'Assemblée nationale en septembre. Enfin Gilles ?
Oui, enfin, il y a eu beaucoup de prudence, il y a eu beaucoup de tergiversations, il y a eu beaucoup de reports. Le volontarisme que Emmanuel Macron a manifesté sur beaucoup de sujets était quand même moins net sur les questions sociétales. Il faut essayer d'abord de réfléchir à pourquoi ça a bougé. Pourquoi sur un des éléments de cette déclaration de politique générale sur lequel il y a des éléments précis de calendrier, ça a bougé sur la PMA. Je crois que d'abord, les risques de l'action sont plus limités, en tout cas l'analyse qu'a dû faire le gouvernement, c'est-à-dire que quand on regarde l'état de l'opinion, c'est évidemment des choses qui sont très différentes de ce qu'était l'état de l'opinion au moment de l'abolition de la peine de mort ou même du mariage pour tous, c'est que l'affaissement des Républicains sur la ligne de François-Xavier Bellamy, on se dit le risque d'action est sans doute moins limité, et que dans l'autre sens, le risque de l'inaction commence à être fort, parce qu'il y a la pression des associations qui presse le gouvernement de enfin agir, parce qu'il y avait une pression politique à l'intérieur d'En Marche, au groupe parlementaire, et même pour la première fois, le parti a manifesté publiquement sa position par Stanislas Guérini, et puis parce qu'il y a, je crois, une espèce de dimension psychologique qui était que, à trop tarder, on finirait par ne plus avoir aucun bénéfice. Je crois que c'est dans Le Diable et le Bon Dieu, Jean-Paul Sartre dit que les victoires, lorsqu'elles sont décrites de manière trop détaillée, finissent par ressembler à des défaites. Eh bien, c'est un peu la même chose. Les réformes, lorsqu'elles finissent par être trop étirées, finissent aussi par ressembler à des défaites. Et donc, à un moment, il fallait y aller. Et c'était le moment.
Natacha.
Oui, je crois que Gilles vient de décrire totalement, on va dire, le raisonnement politique qui explique cette décision. Et de fait, on savait que dans la mesure où c'était une promesse d'Emmanuel Macron et dans la mesure où c'est une évolution sociétale générale dans les pays occidentaux, on savait que ça allait arriver. Après, il y a la question de tout ce qui n'apparaît pas dans ce débat ou plutôt qui est évacué pour des raisons parce que on estime, on a réussi à expliquer que c'était un principe d'égalité qui prévalait. Or, je pense qu'il est nécessaire, même si cela va être voté, même si cela va être décidé, de se poser la question de ce que ça implique. Et notamment du point de vue de la logique de ce qu'est la sécurité sociale. C'est-à-dire la question du remboursement de la PMA pour toutes les femmes, pour les femmes seules, c'est une question intéressante dans la mesure où elle modifie le rôle même de ce qu'est une assurance, de ce qu'est la sécurité sociale, puisque il ne s'agit pas de faire jouer la solidarité nationale face à une pathologie, mais face à quelque chose qui est de l'ordre de la demande sociale, de la demande d'individus. Ça, je pense que nous devons réfléchir à ce que ça implique, jusqu'où nous voulons aller de ce point de vue-là. Parce que c'est
vous n'êtes pas hostile à la PMA, par exemple, ou à son extension. En revanche, le remboursement par la sécurité sociale, est-ce qu'il faudrait réserver le remboursement aux couples hétéros, par exemple ?
C'est pas ça. C'est que normalement, pour l'instant, la PMA était destinée à des couples qui souffraient d'infertilité pour des raisons médicales. Après, on peut discuter. Justement, ce qui est intéressant dans ces cas-là, c'est de rentrer dans les détails. C'est-à-dire, à partir du moment où vous faites appel à un donneur, est-ce que ça change la logique de la chose, etc. Je pense qu'en effet, il y a des tas de réflexions à avoir là-dessus. Mais le fait est que jusqu'à présent, il s'agissait de combler une infertilité qui était médicale, c'est-à-dire le fait que, en gros, le corps n'agit pas comme il devrait agir s'il n'y avait pas de problème. Là, c'est pas pareil. Là, il s'agit de dire que des femmes vont demander que la société et l'État les aident à avoir des enfants sans avoir à, tout simplement, à avoir une relation sexuelle avec un homme.
Mais on peut avoir des enfants sans avoir de relation sexuelle.
Oui, on peut. Mais la question est de savoir, ce sont des femmes qui sont fertiles. Donc vous voyez, il faut se poser ces questions-là. Pourquoi ? Parce que le sens de la sécurité sociale, c'est de combler une pathologie. Donc nous choisissons de modifier cela, très bien. Nous le choisissons, mais j'aime bien qu'on ait conscience de ce qu'on choisit.
Gilles ? Oui, mais on va d'autant plus en avoir conscience que maintenant que le débat sur le calendrier est tranché, le débat sur le fond va pouvoir davantage se nouer. Et donc il y a ce débat sur le remboursement, il y a beaucoup d'autres débats qui sont devant nous. La question de l'anonymat du don est une question qui est très complexe puisque la France est un des pays qui préserve l'anonymat et dans le même temps le Conseil d'État reconnaît la possibilité pour les enfants de savoir leur origine. La question du régime de la filiation est devant nous et donc très bien, le débat sur le calendrier est terminé. Ayons maintenant le débat sur la filiation, sur l'anonymat, sur le remboursement. C'est ça que l'on aura à partir du mois de septembre prochain.
D'un mot sur l'opinion, est-ce que l'opinion aujourd'hui est majoritairement favorable à l'extension de la procréation médicalement assistée aux femmes seules et aux couples de femmes ?
Oui, selon les dernières enquêtes que j'ai en tête, c'est à plus de entre 60 et 66%, donc une majorité qui est très nette.
France Inter. Le grand face-à-face, le duel.
Il faut savoir que dans notre droit, en dessous de 13 ans, il n'y a pas de sanction pénale. Il n'y a que des mesures éducatives. Ce sera évidemment le cas dans ce que je proposerai demain. Mais ce qui n'est pas possible, c'est qu'il n'y ait pas de réponse.
La ministre de la Justice, jeudi sur France Inter, elle proposait donc, Nicole Belloubet, un changement pour la justice des mineurs. C'est une question qui revient très régulièrement, Natacha, celle de la manière de juger, alors on dit les mineurs, mais en l'occurrence pour des gamins de moins de 13 ans, on devrait parler d'enfants.
Oui, on doit parler d'enfants, mais de fait, pourquoi le sujet revient-il ? Parce que quand on regarde les chiffres précis de ce qu'on appelle la délinquance des mineurs. Nous avions sorti ça dans Marianne cet automne. Il y a des chiffres. Dans certains endroits, dans certaines villes, vous avez une augmentation sur les 10 dernières années qui va de 10 à 30%. Pour des enfants qui, justement, ont moins de 13 ans, vous avez aujourd'hui des actes délictueux plus violents, des choses qui sont qui aujourd'hui donnent l'impression aux professionnels, aux policiers, aux enseignants, qu'il y a quelque chose d'extrêmement difficile pour la société à gérer. C'est pour ça qu'il y a une sensibilité sur ce sujet-là et qu'il faut que nous réfléchissions, en effet, à la bonne réponse.
Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'en l'occurrence, le juge peut décider aujourd'hui qu'un enfant de moins de 13 ans peut être responsable pénalement. Quel besoin, finalement, de revenir là-dessus ? On va pas incarcérer un gamin de 11 ans.
Non, on revient pas là-dessus. Au contraire, là, Nicole Belloubet adapte notre droit à ce qui existe du point de vue international, c'est-à-dire
aux conventions internationales.
Aux conventions internationales, il y aura irresponsabilité présumée pour un enfant de moins de 13 ans. Voilà, c'est-à-dire qu'il sera jugé irresponsable, sauf décision spécifique du juge. Mais je pense que, encore une fois, au-delà de ça, il faut s'intéresser à la réponse qu'on apporte. C'est ça qui est essentiel. Évidemment que personne n'est là pour dire on va aller les enfermer, etc. En revanche, nous savons aujourd'hui que nous avons un réel problème de gestion d'enfants qui deviennent extrêmement violents.
On parle de 2000 enfants concernés, d'après les chiffres officiels.
Ce qui est beaucoup.
Gilles,
c'est
beaucoup.
2000 enfants concernés, oui, c'est beaucoup. Il ne s'agit pas d'être dans le déni de la progression de la délinquance et de la délinquance juvénile et même de plus en plus jeune. La question est de savoir quelle est la réponse que la société accorde et comment elle fait pour éviter ce que, je crois, tout le monde considère comme la pire des solutions, qui est l'incarcération. Et donc, entre la prison et rien, c'est ça, c'est ce sur quoi il faut travailler.
Mais je reviens quand même sur les mots. Pourquoi est-ce qu'on parle systématiquement de mineurs de moins de 15 ans?
Tout simplement parce qu'il y a des normes qui sont des normes de dénomination. Et en effet, simplement, encore une fois, si on va interroger des professionnels, des juges, des policiers, des enseignants, ils vous expliquent qu'il y a aujourd'hui des enfants qui, dès l'âge de 5 ans, 7 ans, sont gravement déstructurés, qu'ils ne savent pas gérer et dont on sait très bien qu'ils vont, à un moment donné, être amenés à accomplir des actes qui sont des actes dangereux. Donc, ça nécessite un travail de l'ensemble de la société, notamment avec des services de psychopédiatrie, avec de pédopsychiatrie, avec des services qui puissent prendre en charge ces enfants-là et leur réapprendre, disons, un cadrage, une structure, des normes. Ça va être un travail extrêmement complexe.
Et puis dans l'actualité de la semaine, il y avait aussi, Gilles Lévoussa a retenu votre attention, ceci.
Certains sont attirés par l'autoritarisme, qui semble plus efficace pour protéger des menaces venant de l'extérieur, et qui dit « la démocratie ne vous protège plus contre les inégalités de ce capitalisme devenu fou. Nous, on va vous protéger, on va fermer les frontières, faire des murs, sortir du multilatéralisme. Ce sont des gens qui parlent, mais ils n'ont pas de résultats. » Comme en 19 et en 44, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à l'orée, si nous n'y prenons pas garde, d'un temps de guerre.
C'était Emmanuel Macron, mardi dernier, devant l'Organisation internationale du travail à Genève. Pourquoi est-ce que ça a attiré votre attention, Gilles, l'idée que le président de la République dénonce les dérives d'un capitalisme devenu fou? C'est pas très étonnant, si?
C'est pas très étonnant au sens où il y a une certaine tradition française d'analyse qui est différente de celle qu'il peut y avoir dans d'autres parties du monde.
Mais Nicolas Sarkozy disait quasiment les mêmes choses au mot près.
Je pense que ce discours d'Emmanuel Macron est important. Ce qui m'a intéressé, d'abord la réception médiatique m'a intéressé parce qu'on a retenu pour l'essentiel cette phrase du capitalisme devenu fou, mais quand vous écoutez bien le passage et quand vous lisez le discours, en fait, ce n'est pas Emmanuel Macron qui le dit. Il reprend ce que les autoritaristes disent, mais au-delà de ça. Ce qui m'a intéressé, c'est sur le fond, que le président de la République fasse une analyse d'une telle gravité sur les dérives du capitalisme, expliquant qu'il faut changer le modèle d'organisation du capitalisme, ce qui n'est pas un discours qui est un réquisitoire, expliquant que le capitalisme ne remplit plus tel qu'il est, sa vocation sociale en augmentant les inégalités à l'intérieur des pays, que le libéralisme lui-même ne fonctionne plus au sens où il y a des rentes de plus en plus importantes, et que ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est non seulement la démocratie, mais que ça vient fragiliser même la paix, je trouve qu'il
ce sont des choses que Natacha aurait pu dire.
Mais c'est le président de la République qui le dit, dit devant l'Organisation internationale du travail à l'occasion de son 100e anniversaire. Et je trouve que si on partage l'analyse du président de la République, ça mérite pour le moins un débat et un peu plus d'écho que celui que
Gilles,
ça a eu.
Ça mériterait un débat parce qu'il y a un énorme problème. C'est que si on partage ce que dit le président de la République, on en tire des conséquences politiques. Moi, je partage ce constat. Et quand je l'écoute et que je l'entends dire, on ne peut pas dire à l'OMC, vive le dumping, etc. Je crois, en effet, que nous sommes dans un moment de ce qu'on peut appeler, de ce que j'appellerais moi, le capitalisme du low cost, c'est-à-dire une logique capitaliste qui va encore au-delà de la société de consommation et qui est en train d'appauvrir l'ensemble du monde avec cette idée que pour amplifier encore la consommation, il faut toujours baisser les prix, donc pratiquer du dumping. Mais quand on a dit ça, mais on en tire des conclusions. On en tire des conclusions en matière de traité de libre-échange, on en tire des conclusions en matière de protectionnisme, on en tire des conclusions en matière de relocalisation de l'économie. Or, Emmanuel Macron, dans sa politique, ne fait pas cela. Et c'est bien le problème. Ce n'est pas la première fois qu'il va, dans des organisations comme ça, se donner le beau rôle, celui du révolutionnaire. Mais derrière sa politique, à aucun moment, il n'a suivi cela.
Gilles, oui, on passera ensuite au débat avec notre invité.
Juste un mot, on peut pointer, et il y a des sujets sur lesquels on peut le faire, et on l'a fait même depuis des semaines, des questions de cohérence entre ce discours et la pratique qui est faite en France. Mais évidemment, le sujet pour moi le plus important, si on partage l'analyse de ce discours, et je pense que c'est un très bon discours, c'est de savoir pourquoi, dans le rapport de force international, la France est à peu près seule à tenir ce discours. Pourquoi, à la table du G7, à la table du G20, nous sommes si seuls? Et comment on fait pour que d'autres partage ce point de vue parce que, à l'évidence, la question n'est pas seulement une question de cohérence entre ce discours international et la politique française, mais de savoir les conséquences qu'on en tire à l'échelle de la planète.
Je pense que si nous sommes seuls, c'est justement parce que l'ensemble des partenaires de la France ont bien compris que c'était un discours de figuration et de posture et que ça les fait bien rire. Parce que s'il y avait une réelle volonté politique, ça, il aurait été possible pour Emmanuel Macron de s'appuyer sur le mouvement des Gilets jaunes pour aller dire à Bruxelles et à Berlin, écoutez, nous sommes en train de vivre un moment dramatique, cela peut basculer, il est donc temps de changer de politique. Et là, il aurait pu mettre en place un rapport de force. Il n'en a aucune intention.
Gilles, je ne partage pas votre point de vue, Natacha. Je ne pense pas que c'est parce qu'il considère que Emmanuel Macron tient un double discours. Je pense que c'est malheureusement pour une raison plus profonde, c'est qu'il ne partage pas ce discours. Il ne le partage pas pour des raisons idéologiques, je pense aux États-Unis de Donald Trump ou pour la Russie de Poutine, mais il ne le partage pas aussi pour des raisons pratique, c'est que eux ne vivent pas ce capitalisme de la même manière. Lorsque sur les 20 dernières années, le pourcentage de personnes vivant dans l'extrême pauvreté a diminué de presque moitié. Ça veut dire que pour beaucoup de pays pauvres, eh bien, ce capitalisme-là, ou en tout cas, cette évolution-là, fonctionne
mais
bien.
Mais ce capitalisme est ravageur pour les classes moyennes et les classes populaires des pays occidentaux. Et si Emmanuel Macron était cohérent, il se serait trouvé des alliés, notamment l'Espagne, le Portugal, l'Italie, tous ces pays qui vivent cela.
On reprendra le débat la semaine prochaine, promis. À suivre dans le grand face-à-face, le débat avec la présidente du Conseil supérieur des programmes, Souad Ayada.
France Inter. Le grand face-à-face, le débat.
La guerre des programmes scolaires est-elle déclarée? Conséquence de la grande réforme du lycée, il faut revoir les programmes. La bataille fait rage dans de nombreuses disciplines. En philo, en histoire géo, en français, en maths, en SVT, des débats sont animés, des positions tranchées. Un sujet hautement inflammable et ce n'est pas qu'une question d'experts. Les politiques, les intellectuels, les éditorialistes s'invitent souvent pour donner leur avis sur ce que devraient contenir les programmes scolaires. Que faut-il enseigner? Qui doit en décider? Quels programmes et quelles disciplines doivent avoir la priorité. France Inter ouvre le débat avec celle qui est au cœur de ces questions, la présidente du Conseil supérieur des programmes, Souad Ayada. Bonjour.
Bonjour Ali Badou.
Et bienvenue. Quelques petites précisions pour commencer. Vous êtes philosophe de formation. Je l'indique parce que la philosophie vit justement des débats très animés en ce moment autour de la réforme des programmes, mais parce que le bac philo, c'est après-demain et on en parlera tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez des conseils à donner à ceux qui angoissent ou qui terminent de réviser pour le début du bac. Vous avez été nommée à la présidence du Conseil supérieur des programmes par Jean-Michel Blanquer. On vous a surnommée la guerrière de Blanquer. Ça vous définit bien ?
Je ne crois pas, non.
Non.
Non, non, je ne crois pas. J'ai une fonction technique qui est de faire des propositions de programmes aux ministres dans le cadre de réformes qui témoignent de la volonté politique du ministre. Donc c'est un travail plutôt apaisé,
oui.
En tout cas apaisant, les programmes étant dans l'institution scolaire, ce qui est censé être plus structurant, le plus...
Censé.
Voilà.
Mais avant d'arriver à un consensus, c'est vrai qu'il y a parfois des débats très vifs, juste pour que tout le monde comprenne, le Conseil supérieur des programmes, c'est un conseil qui a un rôle de proposition, de
tout
consultation.
Oui.
Vous proposez des programmes, celui qui tranche en dernière instance...
C'est le ministre.
C'est le ministre.
C'est le ministre, le conseil est constitué de 18 personnes, 10 personnalités qualifiées qui viennent d'horizons différents, qui ont des compétences soit dans des champs disciplinaires, soit dans la connaissance du système éducatif, des parlementaires, hein, donc qui représentent la volonté politique, parlementaire, des députés, des sénateurs.
Et on va en parler justement de l'intervention des politiques, oui.
Voilà, donc voilà, c'est une instance qui s'efforce de rechercher le consensus, voilà, et qui n'est pas force de décision, qui propose.
Mais vous
qui
avez
consulte,
malgré tout un rôle essentiel, même si ce n'est pas vous
beaucoup.
Qui tranchez. La philosophie, c'est un cas d'école, Natacha ?
Alors d'abord, un préalable peut-être pour rassurer ceux qui vont passer le baccalauréat. Souvenez-vous que le baccalauréat est un examen qu'il faut vraiment ne pas vouloir réussir pour le planter, puisque quand on le repasse une deuxième fois, les taux de réussite atteignent entre 95 et 98%, et à la troisième fois, en général, on l'a. Donc,
pas la peine d'angoisser.
Voilà, ne vous angoissez pas plus que ça.
Il y a quand même un cap, Natacha Polony, symbolique qui est très important.
C'était une forme de provocation pour introduire le propos. Mais pour quelle raison? Je commence par là. Parce que le baccalauréat est en fait le premier grade universitaire, absolument, originellement. Mmh. Ce qui signifie qu'on ne peut pas penser le baccalauréat si on ne pense pas le rôle du lycée par rapport à l'enseignement supérieur. Or, les professeurs d'université depuis plusieurs années tirent le signal d'alarme, essayent d'alerter sur le fait qu'il y a un gouffre de plus en plus majeur entre le niveau des jeunes bacheliers quand ils sortent du lycée et ce qui leur est demandé à l'université. C'est en particulier vrai dans les matières scientifiques pour des bacheliers S, c'est-à-dire des bacheliers qui sont censés avoir fait 9 heures de maths par semaine, des sciences physiques, etc. Donc c'est à cette aune-là qu'il faut nous poser la question. Et sur la philosophie, par exemple, il faut d'abord se demander, avant de s'empailler sur la question de savoir si on a eu raison de mettre la notion État plutôt que la notion société, puisqu'il y a des débats là-dessus, il me semble que la vraie question, c'est de savoir si des élèves au lycée ont une maîtrise de la langue suffisante pour pouvoir s'interroger sur ces notions, parce que la base de la philosophie, c'est de se poser la question du sens des mots.
Mais Souad Ayada va vous répondre, parce que Natacha l'évoquait, cette question de savoir si en terminale, en philosophie, on doit former des esprits ou préparer des lycéens, les terminales, à l'entrée dans l'enseignement supérieur. C'est une question à laquelle vous avez répondu. Et pour vous, l'essentiel, c'est de former des esprits plus que d'imaginer ce qui arrive derrière.
Pas tout à fait. Je crois qu'il faut remettre toutes ces discussions dans le cadre de la réforme. Voilà, le CSP travaille dans ce cadre-là. La réforme,
grande réforme du lycée,
qui est d'abord une réforme du baccalauréat. Ne l'oublions pas. Réforme du baccalauréat.
Suppression des filières, on en a régulièrement parlé.
Parce que nous avons fait le constat, et c'est pas un constat nouveau. Il a été forgé depuis pas mal d'années, que on pouvait s'interroger sur la valeur certificative du baccalauréat. Et surtout, nos élèves qui deviennent des étudiants à l'université échouent quand même massivement dans les premières années d'université. Donc c'est ce constat-là qui a été un constat partagé par tous les interlocuteurs de la communauté éducative et qui a suscité cette réforme du lycée. Alors, le lycée, quelle est sa vocation? Je crois qu'il faut être toujours fidèle à sa vocation éternelle qui est
élever des loups,
et tout à fait, élever des goûts,
des loups,
donner aux...
C'est ça, l'origine du lycée.
C'est le nom du lieu où enseignait Aristote. C'est pas exactement la même chose.
C'est pas tout à fait. C'est aiguiser, donner la liberté de penser, asseoir, on n'en finit jamais de cela, asseoir les savoirs fondamentaux. Et bien évidemment, ce que disait Natacha Polony, assurer cette maîtrise de la langue sans laquelle il n'y a pas de réussite aussi bien professionnelle que sociale que personnelle.
Gilles.
Oui, vous disiez tout à l'heure que les experts, les politiques, en gros, tout le monde avait un avis sur les programmes.
Oui.
C'est à peu près comme pour la composition de l'équipe de France de foot. Et donc c'est un sujet sur lequel, pour le coup, moi je suis beaucoup moins expert et que Souad Ayada et que Natacha Polony. Ce qui me frappe, c'est qu'il y a une forme, depuis des années, de frénésie quantitative. C'est-à-dire que chacun considère que ce à quoi il est attaché doit être prioritairement enseigné et que le moindre pan qui est abandonné dans son secteur est un drame absolu et un échec assuré pour les enfants. Et que donc on est dans une espèce de course ou de risque d'empilement et que dans le même temps il y a une absence de débat ou une faiblesse du débat sur la méthode, à la fois la méthode d'enseignement, comment les enseignants transmettent ces programmes. Une immense majorité d'entre eux, les trois quarts, considèrent que les programmes sont trop lourds. Les entend-on comment? Et comment les, et pour moi le plus important, comment les élèves apprennent à la fois un socle de connaissances, mais apprennent aussi à apprendre, parce que le travail après dans leur vie et le travail à l'université, c'est d'abord ça.
Souad Ayada.
Oui, vous soulignez un point important. C'est effectivement cette incapacité. Je prends ma part de responsabilité sur ce point. Notre incapacité, ou en tout cas notre très grande difficulté à constituer, à faire des programmes élémentaires. Je crois que c'est le plus difficile. Voilà, et on n'y arrive pas.
On n'y arrive pas, pourquoi ?
On n'y arrive pas parce que dès lors qu'on demande, vous faisiez allusion à tous ceux qui disent que les programmes sont trop lourds, dès lors qu'on leur demande, mais alors à quoi renonce-t-on ? Eh bien, ils ne veulent renoncer à rien. Ils ne veulent renoncer à rien. Je vous donne l'exemple de la philosophie que je connais particulièrement bien, puisque j'ai été professeur de philosophie.
Oui.
La demande de toutes les associations était, et des syndicats, était une réduction du nombre de notions. À peine a-t-on réduit le nombre de notions qu'on nous disait, mais il manque celle-là, il manque celle-là, il manque celle-là. Vous voyez, c'est quand même une tâche assez difficile à accomplir.
Juste un mot, est-ce que la responsabilité c'est il ou est-ce que la responsabilité c'est nous ? Parce que, en gros, est-ce que ce sont les enseignants qui, à chaque fois qu'on retire une notion, considèrent que c'est le drame ? Ou est-ce qu'il y a une responsabilité collective de la société qui, dès qu'il y a le moindre mouvement, dit là il y a un gros problème ?
Soit Dayana.
Je crois qu'elle est partagée, cette responsabilité, oui. Nous avons encore une conception qui consiste à empiler, et encore une fois, à ne pas s'interroger sur ce qui est véritablement élémentaire, qu'il faut maîtriser, à partir de quoi on construit tout le reste.
Il me semble que depuis plusieurs années, le décalage est de plus en plus grand entre l'exigence des programmes et la réalité de ce qui se passe dans les classes. C'est-à-dire qu'on maquille par des programmes touffus et qu'on ne veut pas réduire le fait que différentes méthodes d'apprentissage, depuis plusieurs années, même plusieurs décennies, ont petit à petit fait que les enfants arrivent à chaque niveau scolaire sans avoir les capacités de véritablement tirer de ces programmes ce qu'ils devraient en tirer. Et on voit des professeurs obligés de réduire leurs exigences et de tenir compte de la réalité de leurs élèves. Tout à l'heure, je parlais de la philosophie et de la maîtrise de la langue. Quand vous discutez avec des correcteurs du baccalauréat, ils vous disent que leur problème en philosophie, c'est avant tout le fait que, quand ils trouvent une copie écrite dans un français correct, avec une grammaire à peu près cohérente, ils sont déjà heureux.
C'est pour rassurer les bacheliers ?
Non, mais c'est pour rassurer les bacheliers, mais c'est surtout pour réfléchir à ce qu'on appelle la didactique. C'est-à-dire cette science qui consiste à réfléchir à la façon dont on traduit un savoir dans des programmes scolaires. Or, Soua Dayada avait raison de dire, le problème c'est l'élémentaire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on garde à l'école élémentaire comme structure qui va permettre aux enfants d'avoir les bases pour ensuite arriver jusqu'au lycée ?
Et qu'est-ce qui est élémentaire ?
Or là, on a un réel souci.
Moi, j'aimerais qu'on parle aussi des questions qui se posent. Il y avait un article dans Marianne, il y a quelques semaines, s'interroger Verdun, Marx, Freud, seraient-ils supprimés du lycée ? La discussion avait lieu, on se demandait finalement si ces passages a priori incontournables dans la scolarité d'un lycéen disparaîtraient des programmes. On s'interroge régulièrement aussi sur ce qui pourrait ne pas être dans les programmes. Il y a le trop-plein et il y aurait aussi les absents.
Oui, les programmes scolaires suscitent des passions et je dirais même circulation de rumeurs qui sont fausses. En la matière, Freud et Marx n'ont absolument pas été supprimés de la liste des auteurs.
D'ailleurs, l'article de Marianne, justement, relativisait cette histoire.
Nous avons même introduit Engels pour qu'on puisse étudier des œuvres écrites par les deux auteurs, pour que les professeurs puissent les étudier. La bataille de Verdun, au contraire, nous avons rétabli dans le programme de première le fait que les grandes batailles doivent être étudiées.
Mais est-ce que les programmes d'histoire sont marqués par une idéologie ? On entend régulièrement des éditorialistes, je vais citer le plus célèbre d'entre eux, Éric Zemmour, qui dit que ce sont des programmes qui sont influencés par des historiens de gauche qui auraient donc déformé, travesti les faits. Bon.
Écoutez, nous, pour notre part, au Conseil supérieur des programmes, nous veillons à nous libérait de toute forme d'emprise idéologique, de courant.
Voilà. Est-ce que c'est
nous
possible
essayons. Ben, écoutez, voyez, nous avons essayé. Nous y sommes-nous parvenus? Je ne sais pas. Nous avons essayé de revenir à des repères chronologiques structurants. Nous avons essayé de rétablir la dimension de récit, hein, qu'il faut bien tout de même que l'histoire, au sens premier du terme, soit aussi quelque chose qui se raconte et qui donne un certain plaisir à apprendre.
Et l'amour de la patrie ? Parce que vous avez évoqué l'idée qu'il fallait transmettre ou enseigner l'amour de la patrie, ça vous a été reproché ?
Ben écoutez, je crois que qu'il y ait pour le cas de la Marseillaise, c'est assez amusant. On m'a reproché de l'avoir réintroduite dans les programmes de l'enseignement moral et civique. Elle existe depuis qu'il y a un enseignement, qu'il y a des leçons de morale, qu'il y a de l'instruction civique. Ça n'a rien de bien exceptionnel. Et puis je crois que quand même l'enseignement est aujourd'hui un lieu un des lieux qui résiste à la décomposition, et c'est tout de même un endroit où, je dirais pas l'amour de la patrie, mais le sens de l'appartenance à une nation se joue.
La question est très intéressante et en fait elle est plus vaste que cela, parce qu'en fait elle pose la question du rôle de l'école à chaque degré, c'est-à-dire le rôle de l'école élémentaire, le rôle du collège, le rôle du lycée. C'est-à-dire que la question de l'école républicaine comme lieu à la fois d'émancipation des individus et de formation d'une communauté nationale, ça nécessite de se demander en effet ce qui doit être enseigné pour permettre cela. Et il y a un véritable débat, notamment en effet chez les professeurs d'histoire, sur la question de savoir si leur rôle est de former l'esprit critique ou d'apprendre à aimer la nation. Or, certains contestent encore cette idée que leur rôle serait aussi de, disons, non pas d'aider à aimer la nation, mais de forger une communauté nationale, ce qui n'est pas exactement la même chose. Mais du coup, ça veut dire que quand on s'interroge sur ces programmes, il faut se demander comment on les adapte à l'âge des enfants en même temps qu'au rôle. C'est-à-dire que et les professeurs, je me souviens d'avoir déclenché une ire chez certains professeurs, un jour où j'avais dit, mais le rôle d'un professeur n'est pas le même que le rôle d'un chercheur. Ils font de la recherche, bien sûr, mais ils ne doivent pas essayer de prendre leurs élèves pour de futurs chercheurs en leur enseignant uniquement à comparer des documents, etc.
Il y a aussi un récit, compte des
bien sûr, de la recherche,
de
effectivement,
de
dans certaines mêmes
genres,
terminologies, tout à fait, oui. Mais non pas que je sois contre cela, mais j'estime que le lycée n'est pas le lieu, tout simplement. Le lycée fournit les savoirs, les connaissances, il aiguise cet esprit critique grâce auquel chaque élève qui deviendra un étudiant, éventuellement un chercheur, trouvera sa voie.
Oui, au-delà de la question de qu'est-ce qui doit être enseigné, la question posée à Ali Badou, c'est aussi comment les programmes doivent être élaborés. De ce point de vue, la création du Conseil supérieur des programmes, qui est une création récente,
qui date de 2013 et qui a été inscrite dans la loi de refondation de l'école.
Voilà, jusqu'à présent, c'était une direction du ministère de l'Éducation nationale qui préparait les programmes. La création de ce CSP, je crois, marque un progrès parce que on a une institution qui est plus diverse, vous l'évoquiez, des personnalités qualifiées extérieures, des parlementaires, qui est plus indépendante et qui est plus transparente. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin sur cette transparence, puisque dans le processus d'élaboration des programmes, vous confiez à chaque fois sur les sujets à des experts, est-ce que les rapports de ces experts, on a vu le débat sur la philosophie dont vous parliez tout à l'heure, est-ce que ce ne serait pas encore un progrès supplémentaire si le rapport de ces experts était soumis au débat public ?
Soit Dayada.
Écoutez, les groupes d'experts que nous mettons en place, que nous laissons travailler, tout à fait librement. D'ailleurs, c'est le fait que leurs propositions puissent être amendées, c'est paradoxalement ce qui garantit leur liberté complète. De travail.
De la même manière que le fait que vos rapports puissent être pris
tout
ou pas
fait.
Pris par le
voilà.
ministre
c'est
est
le
aussi
gage
une garantie d'indépendance
du CSP. Donc vous voyez, il y a tout un ensemble de processus qui garantit cette transparence et cette dimension publique du débat. La proposition, pour vous parler de la philosophie, du groupe d'experts, elle a été présentée aux organisations syndicales et aux associations disciplinaires. Je trouve que c'est tout à fait heureux qu'à cette occasion, j'ai pu me rendre compte de tout ce qui posé de grandes difficultés dans ce programme, dans cette proposition de programme, pour l'amender. Nous n'avons pas, au Conseil supérieur des programmes, prétention d'avoir fait une proposition parfaite. Je suis sûre qu'une nouvelle étape dans la recherche du programme le plus satisfaisant possible s'ouvre avec la consultation et les amendements qui seront apportés par l'administration.
Il nous reste quelques minutes, Natacha.
Alors, une question. Je reviens à une remarque que j'ai faite au début de l'émission, non pas sur la philosophie ou l'histoire, qui en effet sont plus faciles à aborder pour tout le monde, mais sur les sciences et les mathématiques. Comment comptez-vous faire pour combler ce gouffre entre le niveau des lycéens et celui des étudiants en sciences ? Les universitaires disent qu'ils n'ont même pas le sens mathématique, c'est-à-dire un esprit formé pour penser les choses de façon mathématique.
Bon, je crois que là, il faut situer cette question des mathématiques dans l'ensemble des dispositifs qui sont mis en place aujourd'hui par le ministre. Plan mathématique dès l'école primaire, toutes les conséquences, si vous voulez. Du rapport Villani,
attention.
Bien sûr,
en
bien évidemment, en calcul élémentaire. Ouais. Donc, il y a vraiment tout un ensemble de mesures qui vont dans le sens, dès l'école primaire, dès la classe de CP, d'une amélioration du niveau en mathématiques des élèves et un retour à la maîtrise des tables de multiplication. Enfin, bon, voilà, toutes choses qui sont absolument nécessaires pour pouvoir faire des opérations mathématiques plus complexe. Je voudrais souligner tout de même le grand intérêt que présente, contre toute attente et contre toutes les critiques qui lui sont faites, la place des mathématiques dans le nouveau lycée. Précisément, il s'agissait, me semble-t-il, de casser ce qui se passait avec la série S, ou qui finissait par incarner le baccalauréat général, et où se retrouvaient des élèves qui n'avaient aucun goût pour les mathématiques. Là, les mathématiques vont devenir une spécialité dès la première, avec un programme exigeant, mais qui n'est pas plus difficile qu'un programme de gens qui veulent faire des mathématiques. Les élèves qui renonceront aux mathématiques en première pourront choisir des mathématiques complémentaires en terminale.
Mais on pourra ne plus en faire du tout. Certains élèves pourront arrêter de faire des mathématiques au lycée.
À partir de la classe de première. Oui.
Oui.
Oui, mais vous savez les fondamentaux, si vous voulez, des mathématiques.
C'est déjà le cas quand on était avant dans les séries littéraires.
Exactement.
Alors,
qu'est-ce qui change
sous le soleil ?
Qu'est-ce qui change ?
Écoutez,
c'est tout simplement.
Parce que ce que vous décrivez au fond, c'est refaire d'une autre manière la filière S dans ce qu'elle avait à son origine.
Question pour compléter, vous allez réussir à empêcher certains lycées de proposer des packs d'options aux élèves, ce qu'ils sont déjà en train de faire pour les rassurer.
Je crois.
C'est-à-dire de reformer les filières.
Il s'agit que chacun prenne sa responsabilité, les chefs d'établissement, pour ne pas recréer.
Là, c'est déjà fait. Je vous annonce, c'est déjà fait.
Je ne saurais dire. Mais je crois que vraiment, la place des mathématiques, contrairement à ce qui est dit ici ou là, est bien pensée. Et le niveau exigible en mathématiques de l'honnête homme, il est censé être acquis à la fin de la seconde.
Un mot, Gilles.
Oui, un mot. Je trouve que c'est une assez bonne illustration de notre rapport très contradictoire à ces questions d'éducation, parce que les critiques qui sont formulées, on peut avoir d'un côté, en fait, vous reconstituez exactement les filières telles qu'elles existaient auparavant.
Non.
Il y a cette critique-là existe, donc vous pouvez considérer qu'elle n'est pas justifiée, et que dans le même temps...
Enfin, Natacha nous a dit que c'était déjà engagé.
Et dans le même temps, d'autres disent c'est exactement le contraire, vous explosez toutes les filières, et notamment vous affaissez l'enseignement scientifique, y compris dans les filières scientifiques.
Est-ce qu'il faut étudier le changement climatique, la biodiversité ? Est-ce que ça doit être introduit dans les programmes ?
Écoutez, nous y avons fait une place importante dans les programmes de terminale, notamment dans le programme d'enseignement scientifique, le nouvel enseignement commun qui sera proposé à tous les élèves, quel que soit leur choix de spécialité, en première et en terminale. Je crois que la question occupe 40% de notre proposition de programme. Nous allons être saisis par le ministre pour travailler sur les programmes de l'école primaire et du collège pour réfléchir à l'introduction de cette question.
L'émission se termine. Natacha, vous vouliez dire un mot ?
Ça fait déjà plusieurs années que le développement durable est, je crois, à ma connaissance, le seul élément qu'on enseigne tous les ans à tous les niveaux de l'éducation.
Oui,
rassurez-vous.
Oui. et les élèves parfois se trouvent que c'est un peu trop.
Oui, alors qu'ils pourraient tout simplement apprendre l'islam des théophanies, ses structures métaphysiques et ses formes esthétiques.
Non,
c'était
non.
Le sujet de votre thèse. Vous n'allez pas l'imposer
absolument pas.
Dans le nouveau lycée.
Absolument pas. On a introduit Avicenne, je m'en réjouis dans la liste des auteurs, parce que c'est un grand philosophe, tout simplement.
Merci, Souad Ayada, et bon courage à tous ceux qui vont passer le bac,
oui,
Natacha et Gilles,
bon
samedi prochain. Merci à Mathilde Clatt qui a préparé cette émission, à la réalisation Étienne Bertin, à la technique Élise Christophe. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain midi pour Questions politiques. À suivre sur Inter, les secrets d'info de Jacques Monin.